Alors, je m'appelle Arnaud Philippe, je suis universitaire à l'université de Bristol au Royaume-Uni. J'ai fait la totalité de mes études jusqu'à présent en France. J'ai fait une classe préparatoire, je suis rentré à l'école normale supérieure ensuite. La petite singularité est que j'étais à l'origine biologiste, c'est ce que j'ai fait en classe préparatoire puis à mon entrée à l'école normale. À l'issue de mon M1 de biologie, sans rentrer dans des détails trop fastidieux, mais j'ai passé 6 mois à découper des guêpes. Ce qui m'a un petit peu calmé sur l'aspect expérimental de la biologie, même si ça reste quelque chose que je trouve très intéressant. Et j'ai commencé à m'intéresser aux questions sociales, notamment par un biais associatif, en fait, qui est que j'ai commencé à participer à une association qui s'appelait le Genepi, dans le cadre de laquelle j'ai donné des cours en prison. J'ai commencé à organiser des rencontres, des débats autour des questions de prison. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ces questions plus sociales, et donc c'est ça qui m'a donné l'envie de partir vers les sciences sociales avec le choix à ce moment-là de faire de l'économie plutôt que les autres types de sciences sociales, parce que c'était un peu plus mathématisé. Donc moi qui venais des sciences dites exactes, ça me rassurait un petit peu, et parce que le type de méthodes, qui sont encore les méthodes que j'utilise à l'heure actuelle, sont des méthodes très hypothético-déductives, au sens où on pose une hypothèse sur laquelle on n'a pas d'idée forcément préconçue. En tout cas, on cherche un résultat, mais on ne le sait pas à ce moment-là. Et on cherche à trouver une expérience, soit naturel, soit qui a été réalisé naturellement par des politiques publiques ou par des événements X ou Y, soit mener l'expérience nous-mêmes. Et ensuite, on analyse les résultats de cette expérience et on essaye de voir si l'hypothèse de départ est fondée ou pas. Je suis resté dans le domaine de la criminalité, de la délinquance, de la prison, dans le cadre de mes recherches. J'ai fait un doctorat au CREST, qui est un centre de recherche à Paris, puis un postdoctorat à l'école d'économie de Toulouse, à Toulouse, forcément. Et la grosse majorité de mes recherches porte sur la délinquance et la criminalité dans son ensemble, avec une bonne partie de mes travaux qui portent sur les déterminants des décisions de justice, la raison pour laquelle les juges prennent telle ou telle décision, les biais qui peuvent affecter ces décisions-là, et une autre partie qui s'intéresse, mais dont je n'ai pas parlé aujourd'hui dans la conférence, une autre partie qui s'intéresse plutôt aux déterminants du comportement délinquant, pourquoi les gens commettent des délits, qu'est-ce qui les dissuade d'en commettre, qu'est-ce qui les pousse à en commettre, et ce type de questions-là. Alors aujourd'hui, j'avais fait le choix de présenter plusieurs, enfin une sorte de panorama de travaux de recherche pour essayer de donner une vue un peu d'ensemble de mon travail, en se focalisant sur la question des biais, enfin des déterminants des décisions de justice, en particulier des biais potentiels. La première grande question que j'ai présentée aujourd'hui, c'est le fait de savoir dans quelle mesure les normes sociales influencent les décisions de justice. Pour ça, on peut distinguer deux types de normes sociales, des normes sociales assez générales à l'échelle de la société tout entière. Et ça, c'est le premier travail que j'ai présenté, qui est un travail en collaboration avec Daniel Chen, qui est à l'université à Toulouse, où on regarde l'effet des anniversaires sur les décisions de justice, avec l'idée que l'anniversaire, c'est une bonne norme sociale parce que c'est assez communément accepté qu'il faut être gentil avec les gens le jour de leur anniversaire. En revanche, ça vient en contradiction avec une éthique professionnelle très forte dans la magistrature, qui est d'être indépendant, de ne pas prendre en compte des aspects extérieurs au cas à juger. Et donc, ça nous semblait être un paramètre important, parce que si on trouvait un effet des anniversaires dans ce contexte-là, alors même que la norme professionnelle était très forte, ça voulait dire a fortiori qu'il y avait des chances pour qu'on la retrouve quand même un petit peu partout. C'est effectivement ce qu'on a trouvé en prenant les décisions de justice en France. Sur une assez longue période, et toutes les décisions de justice auxquelles j'avais accès, qui sont l'ensemble des condamnations prononcées. Et on trouve effectivement que si on compare les gens qui sont jugés le jour de leur anniversaire par rapport aux gens qui sont jugés juste le lendemain, la veille, l'avant-veille, le surlendemain de leur anniversaire, on constate qu'effectivement, les peines sont plus faibles pour les. Donc, il y a un petit cadeau fait au justiciable qui passe le jour de son jugement, uniquement si celui-ci est présent pour ça. Il n'y a pas de cadeau pour les absents, d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres contextes. On a fait le même exercice avec des décisions des tribunaux fédéraux aux États-Unis, et on trouve la même chose. Un autre aspect de ces normes sociales est de s'intéresser plutôt aux normes locales. Alors en France, on a tendance à considérer un petit peu que la justice, enfin que l'État est un et indivisible, et que tout est centralisé, tout doit être national. Mais néanmoins, on peut imaginer quand même qu'il y a des préférences locales, qu'on ne juge pas exactement de la même façon à Aix, à Metz, à Nantes. Alors dans le contexte français, c'est assez difficile à mesurer, mais là, on s'est intéressé à un contexte assez particulier aux États-Unis, qui est l'État de Caroline du Nord, État de la côte est des États-Unis, dans lequel on a des juges qui sont élus à un endroit, dans un district. Il y a 50 districts en Caroline du Nord. Et tous les 6 mois, ces juges sont forcés d'aller juger ailleurs. On les voit qui tournent comme ça, dans la pratique, ils vont et viennent entre leur district d'élection, là où ils habitent probablement, et un autre district. Et comme ça, on peut observer les gens en début de carrière, et voir comment leurs décisions sont en comparaison de celles des vieux juges qui sont habitués à juger dans ce district-là au moment où ils arrivent. Et regarder si les gens, au fur et à mesure du temps qui passe à un endroit, vont avoir tendance à évoluer. Et c'est effectivement ce qu'on observe dans les endroits où les gens n'ont pas été élus. C'est-à-dire qu'ils sont élus à un endroit, quand ils ont à bouger, quand ils arrivent pour la première fois dans un nouvel endroit, leurs décisions sont en moyenne les mêmes que celles des vieux, mais c'est seulement en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui sont beaucoup plus sévères, un certain nombre d'autres qui sont beaucoup moins sévères. Et au fil du temps qui passe à cet endroit-là, leurs décisions vont peu à peu converger vers celles prises par les vieux juges. Ils s'adaptent manifestement, ils apprennent quelque chose sur le contexte local qui les amène à s'adapter à une norme locale. On l'observe uniquement dans les endroits où ils n'ont pas été élus, dans leur district d'élection. Leurs premières décisions sont directement très similaires à celles que prennent les anciens, ce qui peut s'expliquer assez logiquement par le fait que c'est leur district d'élection, donc c'est un endroit qu'ils connaissent, ils connaissent sa norme, ils connaissent les gens, ils connaissent les contraintes en présence. Si on cherche un petit peu à rentrer dans le détail des déterminants de cette norme, c'est assez compliqué, mais ce qui semble être le cas, c'est que cette norme, plus ou moins sévère selon les types de délits par endroit, par district, on trouve que ça ne semble pas corrélé avec les déterminants structurels, un petit peu le taux de surpopulation carcérale, le nombre de policiers, le nombre d'avocats, etc. Mais ça semble plutôt corrélé aux préférences locales, leur vote, est-ce qu'ils sont plutôt démocrates, plutôt républicains, qu'est-ce qu'ils votent aux différents référendums qu'il y a eu, etc. Voilà un peu pour la première partie ce que j'ai présenté aujourd'hui. Alors je suis ce qu'on appelle un économiste empirique, appliqué, ça ne veut pas dire besogneux, mais au sens où je travaille sur des bases de données. Mon boulot, c'est d'essayer d'extraire des causalités au sein de bases de données plus ou moins vastes, dans mon cas, en général, plusieurs centaines de milliers de jugements. Donc je ne fais pas de modélisation, contrairement à un certain nombre d'économistes. J'essaye pas de mettre le monde en équation, j'essaye de prendre des bases de données qui enregistrent des comportements réels et d'essayer, au sein de ces bases de données-là, d'extraire des liens causaux. C'est-à-dire, si on fait bouger A, comment est-ce que B varie? Est-ce que B ne change pas? Est-ce que B augmente, diminue, etc. Pour cela, on fait ce qu'on appelle de l'économétrie. L'économétrie, en gros, ça consiste à essayer de mesurer, de trouver des corrélations qui sont causales. Pour le dire de manière moins compliquée, si vous contentez de regarder deux variables, x et y, le genre par exemple d'un individu et la peine qu'il prend, vous pouvez mesurer une corrélation. Néanmoins, vous ne savez pas si c'est parce que la personne est un homme ou une femme que la peine est plus ou moins élevée, ou si c'est parce que les hommes et les femmes commettent des délits différents, ou si c'est parce qu'ils ont plus une sphère familiale différente, etc., etc. Donc vous essayez de trouver des méthodes qui vous permettent de trouver un lien causal là-dessus. Par exemple, dans le cas du genre dans les cours, vous allez vous dire, OK, les justiciables sont des hommes ou des femmes, mais les juges sont aussi des hommes ou des femmes. Si la différence entre les justiciables hommes et femmes est liée au fait qu'ils commettent des délits différents ou qu'ils ont des structures familiales différentes, etc., etc., on devrait retrouver que les femmes juges et les hommes juges ont la même différence entre les femmes justiciables et les hommes justiciables, puisque les autres contraintes sont les mêmes et les juges les observent de la même manière. Si en revanche c'est plutôt un biais de genre, si c'est plutôt lié au fait que ce soit des hommes ou des femmes, dans ce cas-là, on s'attend à trouver que les femmes juges et les hommes juges ne perçoivent pas ces biais-là de la même manière, ne perçoivent pas le genre de la même façon. Effectivement, c'est ce qu'on observe. Les femmes ont tendance à être plutôt plus sévères avec les femmes, donc moins biaisées, à se rapprocher à rapprocher les peines qu'elles prononcent à l'encontre des femmes, à les rapprocher de celles des hommes, alors que l'écart est plus grand quand c'est un homme qui est juge. C'est ce genre de méthodologie-là qu'on essaye de mettre en place à chaque fois, essayer de trouver une discontinuité, quelque chose qui va venir de manière extérieure, de manière non liée à notre contexte, venir interférer là-dedans et nous fournir une marge de ce qu'on appelle l'identification, nous fournir idéalement deux groupes qui sont très comparables, sauf un choc qui est venu affecter seulement l'un et pas l'autre, et qui va nous permettre de mesurer, de répondre à la question qu'on pose. D'une manière générale, les choses ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de déterminer sur cet aspect des décisions de justice ce qui est du déterminant institutionnel, légal, dans quelle mesure on peut voir que les lois, les contraintes qui pèsent sur l'institution judiciaire déterminent les jugements qui sont prononcés et dans quelle mesure d'autres éléments viennent interférer. Le genre que j'ai évoqué, la norme locale que j'ai évoquée, les médias qui a été évoqué par Aurelius, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet-là, le fait que ce soit des jurés ou des magistrats professionnels, etc., etc. Ce qui se dégage, c'est évidemment un certain nombre de déterminants évidents institutionnels. Pas tant des déterminants légaux. Si on regarde un petit peu la façon dont les lois votées changent les jugements rendus, on constate que c'est assez faiblement le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées en France qui tendent à augmenter les peines possiblement prononcées par les cours, et ça ne change absolument rien, dans la plupart des cas. Exception faite des peines planchers, qui est une loi particulière qui a été votée en France en 2007, qui est venue imposer des minimums. Donc là, forcément, on a remonté toutes les peines, enfin, toutes les peines concernées, et donc on a effectivement vu là un déterminisme de la loi assez fort. Mais sinon, dans le cadre général, il y a pas mal de lois qui servent de marqueurs d'opinion, qui servent à envoyer un signal à l'opinion, mais qui ne changent pas réellement la pratique des juges. En revanche, ce qu'on observe, c'est une assez forte contrainte professionnelle, une idée de mise en cohérence des jugements, mise en cohérence dans le temps. Donc si un type de décision a été prise par le passé, on va avoir tendance à essayer de continuer à l'avoir. Pour reprendre l'exemple des peines planchers, les peines planchers ont instauré un minimum pour un certain nombre de gens, les récidivistes, qui a augmenté les peines. Et cette loi a été supprimée 7 ans après, en 2014, et ça n'a absolument rien changé. Les peines avaient été changées de force, mais une fois qu'on enlevait la contrainte, par souci de cohérence avec les décisions passées, les juges n'ont absolument pas modifié leur jugement, et on a constaté que ça restait aussi élevé que ce que c'était par le passé, que ça revenait pas à la situation qui précédait le vote de la première loi. On trouve aussi des soucis de cohérence de l'échelle des peines, c'est-à-dire que pour reprendre une troisième fois cet exemple des peines planchers, les peines planchers ont augmenté les peines pour un certain nombre de profils. Et il y avait des gens qui avant prenaient déjà plus que le plancher. Donc a priori, ils n'étaient pas concernés par cette loi puisqu'ils avaient déjà plus que le plancher. On constate que les peines ont quand même augmenté pour ces gens-là. La rationalité à ça, c'est de dire, en fait, ces gens-là faisaient quelque chose de plus grave que les autres. Et donc si les autres, on les remonte, on est un peu obligé de les remonter aussi, eux, par souci de cohérence. Enfin, ce qu'ils ont fait est plus grave et donc il faut qu'ils soient punis plus sévèrement que les autres. Donc ça, c'est encore un type de contrainte professionnelle qui pèse sur les décisions de justice. Pour ce qui vient interférer, c'est tout ce que j'ai évoqué, le fait que le genre n'est pas neutre, les femmes ont tendance à être moins sévèrement condamnées que les hommes à fait égal, même quand on observe des partenaires délinquants qui ont commis le même acte ensemble, les hommes prennent plus que les femmes le plus souvent. C'est l'effet des médias, quand on est jugé le lendemain d'un fait divers sordide, on prend plus que quand on est jugé le lendemain de grève ou de n'importe quoi d'autre, surtout si c'est des jurés, enfin exclusivement d'ailleurs si c'est des jurés qui prennent la décision. C'est l'influence des normes locales qui vient là encore bruiter ça. C'est l'influence des élections, alors ça n'existe pas dans le contexte français, sauf certains tribunaux assez spécifiques pour les cours de prud'homme, mais dans le cas de la criminalité ça n'existe pas, mais aux États-Unis il y a des juges qui sont élus, et on constate que les peines ont tendance à augmenter. Avant l'élection, des personnes, enfin, dans les cas où les personnes concourent à leur réélection, donc ils ont une pression à être réélus, et qu'il y a un challenger qui se présente contre eux, ils ont tendance à devenir plus sévères avant l'élection, mais seulement à l'endroit où ils cherchent à être réélus. Dans les autres endroits, ils ne sont pas plus sévères qu'avant. Et la dernière chose qui vient interagir avec ça, que j'ai déjà évoqué pour les médias, c'est la question de la composition de la Cour. Qui sont les magistrats? Est-ce que c'est des professionnels ou est-ce que c'est des jurés? Là-dessus, il y a tout un débat politique qui a pu être mené sur le fait que le peuple demandait plus de sévérité, les gens voulaient que les peines soient plus lourdes, et ça a amené le décideur public, en l'occurrence Nicolas Sarkozy en 2012, à introduire des jurés dans un certain nombre de cours qui n'en possédaient pas, qui étaient auparavant constitués de magistrats professionnels, pour essayer de lier plus l'institution avec le peuple, mais aussi d'augmenter les peines. Et il l'a fait juste dans deux cours d'appel, à Toulouse et à Dijon. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on a deux cours d'appel où on a des jurés, et puis tout le reste de la France, on n'en a pas qui ont été introduits. Donc on peut mesurer si, une fois que les jurés rentrent, ces deux cours-là se mettent à être plus sévères que les autres. Et on n'observe pas du tout. Il s'avère qu'il est possible que les gens demandent plus de sévérité dans un micro-trottoir ou dans une enquête comme ça, dans la rue ou par téléphone. Mais quand ils sont en situation de rendre réellement la justice, qu'ils voient la complexité des cas, qu'ils voient les affaires qui leur sont présentées, il s'avère que les peines qui sont prononcées sont rigoureusement identiques à celles que prennent les magistrats professionnels purs. J'ai présenté un certain nombre de fois mes recherches dans des arènes professionnelles devant des magistrats professionnels, des magistrats de métier. Une des principales conséquences, j'ai l'impression, de ce que je fais, c'est d'essayer de mettre en évidence ces biais-là et de les présenter aux gens qui sont des professionnels de la justice, pour un peu les prévenir. Enfin, c'est pas surprenant en soi que les gens soient biaisés, on l'est tous. Dans le cas des décisions de justice, c'est quand même particulièrement important parce que les peines sont, enfin, parce que ça a un impact sur la vie des gens qui est assez énorme. Et du coup, l'objectif est quand même de minimiser au maximum ces biais. Et dans un certain nombre de contextes, on ne les trouve pas. Enfin, si on mesure un certain nombre de biais chez les magistrats, on trouve qu'ils ne sont plutôt pas biaisés. Puis dans certains cas, on trouve qu'effectivement, il y a des hétérogénéités qui n'ont pas lieu d'être. Et ça, à mon sens, la principale conséquence de politique publique qu'on pourrait avoir, c'est de dire qu'il faut former les gens à ça, parce que c'est normal d'être biaisé. Ce n'est pas très surprenant, mais vu que ça peut avoir des conséquences graves, il faut prévenir les gens, prévenir les professionnels, essayer de les former à ça, pour essayer de minimiser au maximum l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est pour les professionnels. D'un point de vue plus large, tout ce que j'ai pu faire sur la fabrique de la loi, donc les lois votées par le Parlement, etc., tend plutôt à aller dans une direction de dire qu'il faut un peu se calmer, arrêter de voter des lois dans tous les sens, augmentant les peines maximales possibles pour tout un tas de délits, créer des sous-délits qu'on peut punir plus sévèrement, etc. Parce que ça a assez peu d'impact sur les décisions réelles. Ça a tendance à hystériser pas mal le débat sur ces questions-là, sans que ça serve à grand-chose, en fait. Enfin, du coup, ça fait du temps et de l'énergie dépensés par des parlementaires, par des hommes politiques, et du temps de médias, de débats, etc., qui est un peu dépensé en assez largement pure perte, même si ça peut être dans un certain nombre de cas sain pour une société de réfléchir à ce qu'elle condamne, mais là c'est quand même de manière très très systématique depuis une vingtaine d'années, très fréquente, très présente, et pour des conséquences qui sont assez négligeables et de bon droit à mon sens.